Cycle foi et culture, dessiner un avenir, dire une espérance. Un cycle proposé par le service diocésain foi et culture avec les paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul et Sainte-Marie du Hameau à Pau. Pour cette première conférence de ce cycle, dessiner un avenir, dire une espérance, voici de larges extraits de la conférence de René Poujol, ancien rédacteur en chef du magazine Pèlerin. Catholique en liberté dans l'Église et dans la société, une intervention enregistrée le 15 septembre 2023 à Pau. Voici donc de larges extraits de cette conférence de René Poujol.
Le 3 novembre 2022, c'était l'an dernier, on est presque à un an, dans son discours d'ouverture de l'Assemblée plénière d'automne des évêques à Lourdes, le président de la conférence des évêques, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, présentait le programme aux évêques. Dans son discours d'ouverture, il dit « voilà, on va parler de ceci et de cela ». Et j'ai retenu ce passage, un peu long, mais écoutez-le. C'est le président de la conférence des évêques de France qui parle, et qui parle à ses frères évêques. Il leur dit ceci. « La plus grande partie de nos travaux va être consacrée à la transformation de nos églises particulières et de notre église en France. Cette transformation est rendue nécessaire par le petit nombre des prêtres de nos diocèses et de manière générale des prêtres en France. Elle est due aussi à la diminution drastique de la pratique dominicale, à la fin de tout un catholicisme sociologique qui se traduisait encore il n'y a pas si longtemps par le baptême des enfants, le catéchisme, la profession de foi, voire le mariage. Ce catholicisme-là se défait de plus en plus rapidement, même si ce qui en demeure occupe encore parfois beaucoup nos prêtres. Il nous faut trouver les moyens d'une vie ecclésiastique forte, missionnaire, rayonnante, dans la ligne de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, grand texte de notre pape François. Voilà un propos qui, à mon avis, tranche heureusement avec la langue de buis habituelle d'un certain nombre de nos évêques. Il appelle un chat, et il dit aux évêques qu'il va falloir repenser une certaine pastorale, une certaine organisation dans les diocèses, du fait de cet effondrement qu'on évoquait tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure, sur le constat de l'effondrement, tout le monde est d'accord. Ou d'accord. En revanche, sur le constat, tout le monde semble s'accorder, oui, même du côté des groupes traditionnalistes, voire intégristes, qui, en revanche, mettront volontiers en avant la fécondité missionnaire de certains de leurs communautés par opposition à ce qui se vit dans d'autres paroisses. Mais sur l'analyse des causes, les oppositions n'ont jamais été aussi fortes. Or, sur l'analyse des causes, je le dis fortement en commençant, si vous n'allez pas comprendre le sens de mon propos, il y a là un préalable nécessaire à toute action. Difficile d'oser l'espérance sans comprendre d'où on vient. Dans l'Église catholique, j'oserais cette comparaison, dans l'Église catholique depuis 50 ans, ce qu'on appelle le point Godwin, je ne sais pas si c'est une notion que vous avez en tête, le point Godwin de la discussion est atteint avec l'évocation du Concile Vatican II. Vous savez, le point Godwin, c'est un concept qui a été créé dans les années 90, où un sociologue a découvert que lorsqu'on s'emplumait sur les réseaux sociaux, que la discussion devenait vraiment très âpre, très agressive, à partir de ce moment-là, on n'allait pas tarder à parler de nazisme et à parler d'Hitler. La référence au nazisme et à Hitler arrive très vite. Dans l'Église catholique, c'est la référence à Vatican II. Dès que ça commence à s'exciter un peu, il y a les pros et les anti, et on commence à s'envoyer Vatican II en travers de la figure. On connaît ou on ne connaît pas cette mauvaise plaisanterie que j'ai entendue de mes oreilles, qui a circulé et qui circule depuis des décennies dans les milieux traditionnalistes. Vatican II, disent un certain nombre de traditionnalistes, Vatican II a voulu ouvrir les portes des églises. Point de suspension. Et les gens en ont profité pour partir. Alors, au-delà de la boutade, on peut leur poser la question, et si les gens sont partis, est-ce que c'est uniquement parce que les portes étaient ouvertes ou est-ce que parce qu'ils s'ennuyaient à l'intérieur? C'est quand même ça le fond du débat autour de Vatican II. Selon l'historien Guillaume Cuchet, que vous avez peut-être lu, ce n'est pas Vatican II qui est en cause dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, dans cet effondrement. Simplement, dit-il, Vatican II n'a pu empêcher et finalement a servi d'accélérateur à des phénomènes, baisse de la pratique religieuse, celui des vocations, qui était bien antérieur au Concile Vatican II. Et d'ailleurs, il suffit de voir que les évolutions ont été exactement similaires dans l'Église anglicane, et que je sache que l'Église anglicane n'a pas été concernée par les conclusions du Concile Vatican II. Et Guillaume Cuchet écrit ceci, je trouve, une réflexion intéressante, une comparaison intéressante. Vatican II, écrit-il dans un de ses livres, a été en France cette réforme, sans doute nécessaire, qui a déclenché la révolution qu'elle prétendait éviter. Comme jadis, dit-il, les États généraux dans la France de la fin du XVIIIe siècle. On convoque les États généraux pour éviter la révolution, et c'est de les États généraux que naît la révolution de 1789. Il faut le dire et le redire, en tout cas, moi, je le dis et le redis. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Les Écritures, on le sait tous, ont été rédigées dans un contexte particulier. Elles n'ont pas été dictées par Dieu qui tenait la plume de ceux qui ont écrit les textes de la Bible et pas plus les évangiles, comme parfois on a pu nous l'enseigner quand on était gamin. Hein. Et donc, ces textes doivent être lus et interprétés en tenant compte du contexte. C'est ce qu'on a appelé la lecture historico-critique. Je parle donc d'inculturation. J'ai appris de la lecture du théologien Bernard Sesbouet, j'avoue que j'avais jamais pensé les choses de cette manière-là, que l'un des défis des premiers conciles œcuméniques, les conciles de Nicée-Constantinople, qui ont fixé un certain nombre de points du dogme, n'avait pas été uniquement de fixer le dogme, mais avait été d'inculturer la foi chrétienne qui était née dans un contexte sémitique, dans une culture juive, de l'inculturer dans la culture hellénistique qui devenait le terrain de la mission. Donc déjà, dès le 3e, 4e siècle, on se rendait compte que si on voulait rendre la foi chrétienne intelligible à des Grecs, il ne fallait pas leur parler de la même manière qu'on parlait à des Juifs de Jérusalem. Il fallait trouver le langage qui était capable de comprendre les Grecs. On peut imaginer de la même manière, mais là j'aurais peut-être des historiens qui me contrediraient, que la même question d'inculturation s'est posée au moment de la Renaissance. Il fallait adapter le message chrétien à la redécouverte de l'humanisme qui nous venait précisément du monde grec et du monde latin. Et on sait ce qu'il en est devenu, c'est-à-dire que cette inculturation, en fait, nous a donné le schisme que l'on connaît avec la réforme, et par opposition à la réforme, la contre-réforme catholique. On peut penser que la motivation de Vatican II a été, de la même manière, dans l'esprit du pape Jean XXIII, au moment où il a annoncé le concile de Vatican II, dont l'objectif était de combler le fossé qui existait entre l'Église catholique et le monde moderne. Imaginons ces années, la moitié à la mi-siècle dernier, si je puis dire de certaine façon. Progrès des sciences et des techniques, émergence de la société de consommation avec les Trente Glorieuses, circulation des idées par-delà les frontières, puisqu'on avait des outils qui permettaient de communiquer par-delà les frontières, pluralisme, découverte du pluralisme philosophique et religieux. On était dans une France majoritairement catholique, on savait bien qu'il y avait des juifs parmi nous, qu'il y avait aussi des musulmans, mais on découvrait qu'il y avait aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, etc. etc. Donc, découverte de ce pluralisme et désir d'autonomie dont on sait qu'il est l'un des moteurs de la société contemporaine. L'échec relatif, je dis relatif parce qu'il y a matière à débat, l'échec relatif du Concile Vatican II tient, selon un certain nombre d'historiens et d'analystes, aux événements de mai 68, qui sont venus, c'est vrai, tout bousculer, tout bouleverser, au moment où l'Église essayait de mettre en place les conclusions du Concile, et puis au basculement civilisationnel qui a marqué cette période-là et qui continue de marquer le monde dans lequel nous sommes. Une anecdote. Un cardinal, je pense que c'est un cardinal français, mais dans le texte, dans le livre où j'ai trouvé cela, c'était pas précisé, interrogea un jour le général de Gaulle. Et il dit au général de Gaulle, mon général, monsieur le président, puisqu'il était président de la République à ce moment-là, est-ce qu'on peut continuer quand même à louanger l'Église catholique pour le courage prophétique du Concile Vatican II, alors que ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est que les églises se vident et qu'il y a de moins en moins de séminaristes. Et le général de Gaulle répondit de la manière suivante. Le général de Gaulle répondit, en 1959, dit le général, donc c'était postérieur à 59, la rupture du barrage de Malpassé, à Fréjus, souvenez-vous, qui fit 423 victimes, n'avait pas eu pour cause la fragilité de ces structures, mais le fait que, soudain, le sol s'était dérobé. Soudain, le sol s'est dérobé. Et je crois que soudain, le sol s'est dérobé sous les fondements de l'Église catholique, mais sous les fondements de toutes les institutions. Mais je ne vais pas y revenir ici, ce sont des idées qui sont assez partagée à l'heure actuelle. L'écrivain Jean Sullivan, je ne sais pas si Jean Sullivan vous dit quelque chose, mais l'écrivain Jean Sullivan écrivait déjà en 1968, imaginez, le concile s'était terminé 3 ans avant. Jean Sullivan écrivait ceci dans un article publié dans Le Monde. Le temps, il parlait des pères du concile, il parlait des pères du concile. Le temps qu'ils ont mis à faire 10 pas, les hommes de notre temps se sont éloignés de 100. C'est-à-dire que, certes, l'Église a progressé pour aller à la rencontre du monde, mais dans une période où l'accélération de la société a été telle que, quand on est arrivé aux conclusions du concile, eh bien, le monde avait déjà galopé beaucoup plus rapidement que ce que l'Église qui avait essayé de le rattraper. Or, depuis, la situation de crise s'est accentuée. Je vais essayer de passer rapidement parce que je vois que le temps passe. Je voudrais faire référence ici au livre, j'en ai fait recension sur mon blog, et peut-être certains d'entre vous l'ont-ils lu, le livre de Daniel Hervieux-Léger et de Jean-Louis Schlegel, qui sont deux sociologues spécialisés sur les questions religieuses, qui s'appelle « Vers l'implosion, au seuil », qui est paru au printemps 2022. Ils analysent 2 causes d'accélération, je dirais, de la crise que je viens d'évoquer. Hein. La première analyse qu'ils font de cette accélération, c'est de dire, en fait, l'Église avait su compenser, dans la première moitié du XXe siècle, avait su compenser la perte d'influence qu'elle avait les siècles précédents dans le champ du politique. C'est vrai que depuis la séparation de l'Église et de l'État, c'était plus les curés qui disaient pour qui il fallait voter, etc. On voyait bien que l'Église avait perdu le poids qu'elle pouvait avoir sur le monde politique. Mais elle a essayé de le compenser au niveau des fidèles par une emprise sur les familles et la gestion de l'intime, la morale sexuelle et familiale. Or, nous disent nos sociologues, c'est là désormais l'échec sur tous les fronts. L'Église n'a pas empêché le divorce par consentement mutuel, la contraception, la sexualité hors mariage, l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, puis le mariage gay, la PMA, et demain, vraisemblablement, la GPA et l'euthanasie. Et tous les sondages montrent, moi je l'ai vérifié quand j'étais directeur du Pèlerin, tous les sondages montrent qu'en fait, l'opinion catholique, sauf un petit noyau dur, finalement rentre dans la même logique que la société française sur ces débats de société. Partage l'analyse de la société française. Le deuxième choc, nous disent-ils, le phénomène s'est accentué, alors attendez, oui c'est ça, le phénomène s'est accentué à partir de 2020, notamment avec le rapport de la CIAS, alors je ne vais pas y revenir, qui identifie des causes systémiques. Alors j'entends bien que ce rapport est contesté par certains, on pourra discuter dans le débat si vous voulez, mais il n'empêche que ça a marqué profondément l'opinion. Le deuxième choc, en plus de ce rapport de la CIAS, a été la suspension, souvenez-vous, puis la réglementation des cultes liée au Covid-19. Et on a vu à ce moment-là, moi je l'ai vécu très fortement à travers les réseaux sociaux, on a vu l'opinion catholique se diviser un petit peu entre ceux qui disaient « rendez-nous la messe » et qui d'ailleurs sont intervenus auprès du Conseil d'État où ils ont gagné, contre les évêques qui ne voulaient pas trop rentrer dans ces débats-là, pour obtenir effectivement qu'il y ait un assouplissement dans l'accès à la messe. Et puis, le nombre de catholiques, et moi je les ai vus, je les ai entendus sur les réseaux sociaux, qui, à partir de cette expérience un petit peu radicale de n'avoir plus accès à la messe parce que ce n'était pas possible, ont fini par se demander, mais finalement, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Finalement, est-ce qu'on n'y allait pas par habitude, hein? Et toutes les études qui ont été faites depuis lors, depuis le rétablissement du culte, montrent que, grosso modo, dans la plupart des diocèses, il y a 20% de messalisants qui n'ont pas repris les chemins de l'Église. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Belgique, et c'est vrai dans des pays voisins. Au constat donc de nos sociologues, on pourrait rajouter désormais une troisième strate de coups de massue qu'on a reçus sur la tête et qui explique la crise profonde dans laquelle on est. Alors, je cite pour mémoire, hein, je ne vais pas le développer, les 3 rapports sur les frères Philippe et Jean Magnier qui ont été commandés par les Dominicains, par l'Arche et par les frères de Saint-Jean. De nouvelles accusations qui ont été portées sur certaines communautés charismatiques. Là, on pourrait rentrer dans le détail, les béatitudes, les fraternités monastiques de Jérusalem, j'en passe et les meilleurs. Les affaires concernant un certain nombre d'évêques, commencé par le mien, Michel Sentier, évêque, mais il y a eu aussi Mgr Ricard. Maintenant, il y a un évêque, l'évêque de La Rochelle, il y a un évêque auxiliaire de Strasbourg. On sait qu'il y a des évêques qui ont démissionné pour des raisons de mœurs. Mais bon, voilà, il y a quand même eu un effondrement, un ébranlement, je dirais, des catholiques. de voir que une dizaine ou douze évêques étaient quand même concernés par ce genre d'affaires. Hein, sur une période plus récente, et je crois qu'il y a eu une émission ce matin à la télévision France Inter, la crise qui traverse les missions étrangères de Paris, où là il y a des mises en cause aussi également très fortes. Hein. La situation, pour terminer, la situation au bord de la crise de nerfs d'un certain nombre de diocèses, je crois qu'on peut citer le vôtre, hein, et puis il y a le diocèse de Fréjus-Toulon, où on sait très bien que le Vatican est intervenu en interdisant des ordinations, et autant suspendre ton vol, il n'y a aucune décision qui a été prise. Donc tout ça fait une espèce d'amalgame. Alors dans le même temps, je sais bien, une autre sensibilité dans le monde catholique, et ce sont nos frères d'une certaine manière, hein, dans d'autres lieux d'église, on vous met en avant le dynamisme des Saint-Martin et le nombre de vocations, le dynamisme des missionnaires, vous savez, de la miséricorde divine à Toulon, qui se sont donnés pour objectif prioritaire de convertir les musulmans, le succès des messes traditionnalistes, en disant nous, nos églises sont pleines, hein, le durcissement d'un certain jeune clergé. On en parlait avec Jean ce matin, il disait être frappé de voir le nombre de jeunes prêtres aujourd'hui en soutane, alors que les gens de sa génération ont été soulagés et libérés de pouvoir un jour abandonner la soutane. Hein. Et le pèlerinage, souvenez-vous à la télévision, le pèlerinage de chrétienté à Chartres, dont on nous a un peu rebattu les oreilles en nous disant qu'il n'y avait eu jamais autant de jeunes. Voilà. Donc, si vous voulez, le constat final, et puis on passera à autre chose. Le constat final de nos sociologues est de nous dire que le catholicisme français, c'est un propos de sociologue, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord, mais il faut accepter un regard extérieur. Et dans une situation d'éclatement, on se trouve dans une situation d'éclatement, disent-ils, du catholicisme français. Éclatement qui signifie existence de camps irréconciliables. Je peux vous dire que qui est sur les réseaux sociaux se rend compte facilement qu'effectivement, il y a des moments où on a l'impression qu'on est sur des planètes tellement différentes qu'on n'a plus rien à se dire, on ne se comprend plus, ou alors on va s'écharper, et c'est pas l'objet de la manœuvre. Hein. Éclatement signifie aussi effritement d'une institution qui était arrivée jusque-là à tenir ensemble des éléments disparates. Et ils analysent de la manière suivante, nos deux sociologues, je les cite, « C'est là, disent-ils, une situation absolument inédite pour l'Église catholique depuis la réforme du XVIe siècle. D'un ébranlement qui vient de l'intérieur de l'Église elle-même et non d'un dehors qui lui serait hostile. L'Église fait face, au sens propre du terme, au risque de sa propre implosion. Il se pourrait même, disent-ils en réalité, que ce processus soit déjà enclenché. » Alors que faire ? Que faire ? Où trouver précisément des signes d'espérance ? Pardon d'être revenu aussi longuement sur ce constat déprimant, alors même que votre attente, c'est précisément de savoir comment en sortir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, si on n'est pas d'accord sur le constat, si on imagine que la cause première, c'est effectivement Vatican II, vous comprenez bien qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions sur l'avenir à bâtir. Dans un des cas, il faut restaurer, et dans l'autre cas, il faut oser l'aventure, il faut oser la nouveauté, comme on nous y invite le pape François. Je pense que la réponse est à chercher à trois niveaux. Premier niveau, dans la dynamique synodale qui a été ouverte par le pape François. On est en plein dedans, je vais y revenir. J'essaierai d'accélérer parce que je risque d'être très bavard sur ce sujet. Le deuxième signe d'espérance, je vais aller le chercher dans un regard acéré qu'il nous faut avoir, malgré les difficultés, j'y reviendrai, sur ce qui émerge ici et là. Alors c'est à la fois des actions, et c'est aussi la réflexion. Moi j'ai été frappé, j'y reviendrai tout à l'heure, dans cette période du confinement, de voir à quel point je vais être un petit peu sévère, mais je trouve qu'on a bien entendu une parole très forte de la part de nos évêques, qui est un peu gênée aux entournures, et en revanche, on a des paroles prophétiques qui nous sont arrivées de gens qu'on n'attendait pas, et parfois qu'on ne connaissait pas. Et la troisième signe d'espérance, j'irai les chercher dans une manière nouvelle de se situer personnellement, de nous situer, nous, personnellement, par rapport dans le monde ecclésial. Je vais essayer de reprendre ces trois points. Une première réponse, c'est donc le synode sur la synodalité. Alors, je sais que votre programme prévoit d'accueillir Monique Bojard, précisément sur ce synode qui va s'ouvrir dans quelques semaines, déjà le 4 octobre prochain, mon anniversaire de mariage. Elle vous en parlera plus longuement. Elle dira sans doute des choses plus complexes et peut-être différentes des miennes. Mais il est difficile pour moi de faire l'impasse parce que je crois qu'aujourd'hui, pour qui entend malgré tout rester dans l'Église, la dynamique synodale qui a été enclenchée par le pape François est sans doute la plus porteuse d'espérance même si bien des questions demeurent, je les évoquerai à la fin de mon propos sur le synode. Je crois que le pape François a compris tout l'enjeu, précisément d'une nécessaire inculturation nouvelle du christianisme dans la logique de l'aggiornamento voulu par Vatican II. Vous savez, il y a deux lectures possibles de l'aggiornamento voulu par Vatican II. Il y a des gens qui disent, oui, le concile a voulu faire un aggiornamento, c'est-à-dire mettre à jour la réflexion de l'Église sur elle-même, etc. Ça aboutit à des textes. Les textes existent, donc l'aggiornamento terminato. On n'en parle plus. Plus besoin de se mettre à jour, ça a été fait à Vatican II. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. La société continue à cavaler. Donc notre capacité, la nécessité pour l'Église de se mettre toujours au diapason, non pas pour suivre la société, mais pour répondre aux interpellations nouvelles de la société, elle demeure. Le pape Paul VI l'avait bien compris, qui a créé le synode. Et quand on lit les textes, quand on lit les historiens, on voit qu'il a dégainé le premier en disant au père du concile, voilà, j'ai créé le synode, ça va fonctionner comme ça, parce qu'il avait qu'une trouille, c'est que les pères du synode, si eux-mêmes l'idée leur venait, qu'ils la développent et qu'ils aillent beaucoup plus loin que ce où il voulait aller lui-même. Et c'est un peu le constat que fait aujourd'hui, qu'a fait à son arrivée le pape François, qui a trouvé un blocage au niveau de la structure synodale, et s'il la remet, s'il a innové en consultant le peuple de Dieu, s'il a innové en faisant des synodes avec deux sessions successives et en temps qu'il ne les sépare, c'est bien précisément pour dépoussiérer et aller beaucoup plus loin. J'ai lu sur un site intégriste qu'effectivement le basculement auquel on assistait aujourd'hui avec ce synode, c'était que pendant longtemps le synode avait été uniquement une affaire d'évêques et qu'aujourd'hui c'était l'affaire du peuple de Dieu. Moi je m'en réjouis, eux ils s'en lamentent. Parce qu'on passe d'une certaine vision de l'Église à une autre vision de l'Église, d'une vision purement cléricale et hiérarchique à une vision qui est celle effectivement du peuple de Dieu. Qui dit inculturation dit respect de la diversité. Mais quand on dit respect de la diversité et nécessité de l'inculturation, il ne faut pas qu'on soit, uniquement focalisé sur l'Europe sécularisée en disant. Même si cette Europe sécularisée est un lieu d'évangélisation pour l'avenir. Hein, c'est ce qu'on a parlé, la nouvelle évangélisation. Il y a une grande diversité. Donc aujourd'hui, il faut inculturer la parole de Dieu, il faut inculturer les évangiles qui nous racontent, qui nous apportent le message de Jésus, dans cette diversité. L'inculturer dans la réalité culturelle africaine, c'est pas la même chose que l'inculturer dans la réalité de l'Asie, dans la réalité de l'Amérique latine, dans la réalité de l'Amérique du Nord, ou dans la réalité de l'Europe. Il faut l'inculturer de manière différente. Mais on sent bien que c'est cette idée d'une inculturation différente qui fait peur, mais légitimement, à un certain nombre de gens dans l'Église qui disent « Mais attendez, si on va vers le pluralisme, ça va être l'éclatement, il n'y aura plus de vérité qui soit commune à tout le monde. » C'est une véritable inquiétude. Je comprends que les gens puissent avoir peur. L'idée pour François, et c'est une idée qui a été exprimée, je me souviens, dès le début de son pontificat, donc dès 2013, c'est que le centralisme romain était arrivé à une impasse. On ne peut plus aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît en gros, on ne peut plus aujourd'hui, quand on est à la tête de l'Église universelle, légiférer pour l'Église universelle. Enfin, encore une fois, en matière de pastorale, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux de vouloir avoir exactement la même pastorale pour chacun des continents que j'ai évoqués tout à l'heure, avec des situations de l'Église complètement différentes. Alors, voilà l'esprit du synode. Que dire de ce synode, hein? D'abord, la consultation a été ouverte. Vous vous souvenez que tout le monde a été appelé à se prononcer. Et la consultation a été non biaisée. Non biaisée. Hein? Ayons à l'esprit, quand on fait des consultations, vous savez que c'est le principe. On consulte, on fait la synthèse au niveau de la paroisse, puis ça remonte à l'étage au-dessus, c'est-à-dire le diocèse, on fait la synthèse de ce qui remontait les paroisses, puis ça remonte au niveau de la conférence des évêques de France, où on fait la synthèse de ce qui remontait, hein, puis ça remonte éventuellement, non, là c'était la première fois au niveau des continents, il faut le souligner, hein, et puis ça remonte au Vatican, où on fait la synthèse finale. Mais comment procédait-on dans le passé? Les gens s'expriment, on voit ce qui fait consensus, et les points sur lesquels il y a dissensus, on n'est pas d'accord. Et le principe dans l'Église, c'était qu'on retenait ce qui faisait consensus, le reste on l'oubliait, ce qui fait consensus, on le fait remonter à l'étage du dessus. Donc l'évêque reçoit ce qui fait consensus dans la paroisse Saint-Paul-de-Pau. Mais le reste, il n'en sait rien, et à la limite, il ne peut pas le savoir. Mais je ne parle pas uniquement de votre évêque, c'est vrai dans tout. On faisait la synthèse au niveau du diocèse, on regardait ce qui faisait consensus au niveau du diocèse. ceux qui ne faisaient pas consensus, on les laissait de côté. Et ça remontait au niveau national, ou au niveau de l'Église de France, on faisait la synthèse et on faisait remonter à Rome. Résultat, ce qui remonte, c'est ce qui a le plus insignifiant, parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si c'est pour reformuler dans un langage nouveau ce que dit le magistère de toute éternité, c'est pas ça qui va faire bouger beaucoup, mais à la limite, on ne souhaitait pas faire bouger beaucoup. Ce qu'a exigé le pape François, et je crois qu'il faut que vous en soyez conscient, c'est la procédure inverse. François a dit, tout doit remonter, tout doit être noté. On fait une consultation dans une paroisse, et dans le compte rendu qu'on fait, on dit, là-dessus, il y a consensus. Mais aussi, il y a tel et tel point qui ont été évoqués, là-dessus, il y a débat. Les uns sont pour, les autres sont contre, etc., etc. Et c'est la totalité de tout ça qui remonte au niveau du diocèse, où on fait le même exercice. On retient ce qui fait consensus, et on dit que ça fait consensus, mais on retient ce qui est venu de telle paroisse, de telle autre paroisse, où il y avait des idées qui ne faisaient pas consensus, mais qui font partie de l'expression du peuple de Dieu. Ça remonte au niveau de la conférence des évêques, et je peux vous dire, pour l'avoir lu de près, que le compte rendu qui a été fait par la conférence des évêques de France sur cette consultation était remarquable d'honnêteté dans la ligne de ce que souhaitait le pape François. Ce qui a mené un ami journaliste, Jean-Marie Guénois du Figaro, de titrer, quand il a eu ça, ça lui est tombé des mains, en disant « les évêques de France demandent de la révolution ». Non, les évêques de France ne demandaient pas la révolution. Ils se faisaient simplement les porte-parole de ce qui avait été dit dans les diocèses, ce qui avait été dit dans les paroisses. Il y a des gens qui ne supportent pas cette démarche-là. Et c'est la même logique qu'on trouve dans le document de travail qui a été publié par le Vatican à la veille de l'été, hein, où on retrouve la même vérité au niveau du constat. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, donc, le premier point, c'était que la consultation n'a pas été biaisée. La deuxième chose qu'il faut dire, quand même, c'est que la consultation a été largement boudée par un certain nombre de prêtres qui, en fait, n'en voulaient pas. Ils voulaient absolument pas qu'on consulte le peuple de Dieu. Et ils se sont dit, si on boycotte, ça va échouer, ils n'iront pas plus loin. Eh bien non, ça n'a pas échoué. Et du coup, ils ont dit à leurs petits jeunes protégés, surtout ne participez pas, etc., etc. Et on a vu, quand la synthèse est sortie de la conférence des évêques de France, on a vu des belles âmes nous dire, mais attendez, ce n'est pas représentatif, on croit, c'est là l'expression uniquement des seniors, c'est l'expression des vieux dans l'Église. Mais les jeunes, ils n'ont pas eu la parole. Mais ils n'ont pas eu la parole tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu la prendre. Et s'ils n'ont pas voulu la prendre, c'est souvent parce qu'un certain nombre de prêtres qui les coucounaient leur ont dit, surtout ne participez pas à ce truc. Donc voilà, le deuxième point qui a fait débat, et non seulement débat, mais polémique. L'instrumentum laboris, je viens d'en parler, l'instrumentum laboris qui a été publié à la veille de l'été, qui est donc le document de travail sur lequel ils vont travailler à Rome à partir du 4 octobre, est absolument remarquable. Et là, c'est une fois de plus, si vous voulez, la démarche n'est pas comme souvent dans les synodes. Souvent, les synodes, la démarche était, on voit bien que le monde a évolué. Donc on part de la vérité révélée, du magistère, du dogme, de la doctrine, et on dit comment on va adapter ça au niveau du langage dans une société qui a changé. La démarche, c'était ça. La démarche avec François, c'est pas ça du tout. La démarche de François, c'est de dire, qu'est-ce qu'il dit le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit dans les paroisses? Qu'est-ce qu'on dit dans les mouvements? Qu'est-ce qu'on dit? Faites remonter tout ça. Et puis le rôle du synode, ce sera quoi? De passer tout ça au crible et de dire... Est-ce que ces revendications sont compatibles avec ce qu'ensemble on comprend du message des évangiles? Vous voyez que la démarche n'est pas du tout la même. On n'est plus dans une transmission de type vertical, on est dans une large expression du peuple de Dieu en disant il y a un rôle essentiel, qui est un rôle de discernement, et ça appartient au synode. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas retenir? Parce que peut-être que l'évangile, peut-être que la parole de Dieu ne peut pas assumer tout ce que les gens revendiquent à droite et à gauche. Mais c'est une révolution copernicienne. C'est pour ça que je dis que ce synode fait partie des signes d'espérance après lesquels nous courons. Hein. Ce texte a été diversement accueilli, hein. Encore une fois, je parle du document de travail, Instrumentum Laboris. Il a été mal accueilli, bien évidemment, dans les milieux traduits, etc., où on nous a expliqué, il y a eu des paroles de cardinaux là-dessus, le pape est hérétique, on veut détruire l'Église, c'est un projet dicté par les francs-maçons, enfin, j'ai tout lu sur tous les réseaux sociaux, hein. Et dans les milieux progressistes dans l'Église, j'ai un certain nombre de mes amis, sur mon blog même, hein, qui ont fait la fine bouche en disant « Oui, c'est gentil, toutes vos affaires, mais enfin, malgré tout, soyez lucides. Hein. » Au synode, il va y avoir 300 participants au synode, alors on nous dit qu'il va y avoir 70 non-évêques, ça signifie quand même qu'il y a 230 évêques. Hein, et donc, que le pouvoir clérical n'a pas été remis en cause. Ce à quoi je leur ai répondu, et ayez ça en tête. Qui n'est pas capable de voir la différence radicale qu'il y a entre une instance où il y a 300 évêques entre eux, 300 évêques, uniquement des évêques, et une instance où 230 évêques vont avoir parmi eux 70 non-évêques, laïcs, hommes, femmes, religieuses, diacres, etc., etc. Le débat ne peut pas être le même. C'est pas possible. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc il va forcément y avoir débat. Forcément, on va aller au fond des choses. En tout cas, moi, je le souhaite et je l'espère. Hein. Voilà. Je ne reviens pas sur les critiques qui ont été formulées parce que j'ai dit en deux mots ce qu'il fallait dire. Hein. Alors et maintenant, par rapport au synode, hein, très rapidement, ce qui va se passer. Donc deux sessions, vous savez qu'il va y avoir deux sessions. Une première session qui va avoir lieu là à partir du 4 octobre, sur trois semaines. On a annoncé que les débats ne seraient pas publics, qu'il n'y aurait pas de compte rendu, parce que le pape veut protéger pour éviter les pressions. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui est clair, c'est que François, au départ, avait prévu une seule session au mois d'octobre, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait tellement convertir les gens à des modes de pensée, à des modes de travail auxquels ils n'étaient pas habitués, qu'il s'est dit qu'il faut donner du temps au temps. Donc la première session va être de passer au crible les 130 propositions qui ont été formulées dans le document de synthèse. Je ne vous ai pas lu des items, mais il y a des choses assez provocantes, je dirais. Hein. Il y a une des questions qui est posée dans ce document, qui est de dire, est-ce que l'Église, finalement, n'aurait pas à apprendre de la société civile qui a intégré la séparation des pouvoirs? Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Attendez, poser ça dans l'Église où on sait que précisément les trois pouvoirs sont confondus, c'est effectivement une sacrée question. Il y a une question qui est posée et qui est reprise dans le document de synthèse, qui est de dire, si des églises locales devenues autonomes prennent des décisions en toute légitimité, parce que le synode leur aurait donné la légitimité pour le faire, qui sont en désaccord avec le magistère de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il fait le pape? Il leur dit, non, je valide pas, il revoit le magistère de l'Église. Vous voyez jusqu'où vont les questions qui sont posées. Hein. C'est vraiment des questions radicales. Hein. Mais c'est dans un document de travail. Ce n'est pas un document magistériel à l'heure actuelle. Donc, deux sessions. L'une pour examiner précisément ce que je disais tout à l'heure, en quoi tout ce qui remonte est compatible, je dirais, avec la parole de Dieu, avec ce qu'on perçoit des évangiles, etc., etc. Un an de réflexion sur la base d'une synthèse qui sera proposée. Et c'est qu'au terme de cette année de réflexion, donc l'an prochain, au mois d'octobre, que les pères synodaux se réuniront à nouveau pour proposer des évolutions au pape François. L'étape d'après sera pour le pape François. Alors, qu'est-ce que les pères synodaux vont oser proposer au pape François? Ça, on n'en sait strictement rien, je ne sais pas si le Saint-Esprit lui-même le sait. Hein. L'étape d'après, ce sera le pape François. Qu'est-ce qu'il va retenir des propositions qui lui auront été faites? Est-ce qu'il va retenir la totalité? On a bien vu avec le synode sur l'Amazonie qu'il y avait des propositions qui avaient été votées, notamment l'accès d'hommes mariés au sacerdoce qu'il n'a pas retenu. Il s'en est expliqué d'ailleurs. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va retenir? Qu'est-ce qu'il ne va pas retenir? Et puis, lorsqu'il aura publié son exhortation apostolique, qui sera, lui, un document magistériel, qui sera la synthèse de toute cette réflexion qui aura duré finalement 5 ans, hein, lorsqu'il aura publié ça sous forme d'exhortation apostolique, quelle sera la manière dont ça va être reçu, entre guillemets, par les églises locales, par les fidèles eux-mêmes, mais non seulement par les fidèles, mais par ceux qui devraient être, je ne veux pas être péjoratif, mais qui, par statut, je pense aux prêtres, je pense aux évêques, sont là quand même pour animer le peuple chrétien à partir de ceux qui auraient été décidés à Rome. Je ne veux pas revenir sur des sujets qui fâchent, mais j'ai quand même le souvenir, lorsqu'il y a eu le synode sur la famille, où le pape François, sans violer personne, ça a été la décision des pères synodaux, a accepté, sur des sujets brûlants, les divorcés remariés et les homosexuels, sous certaines conditions, pour certains d'entre eux, de les faire accéder au sacrement. Alors bien évidemment, c'était une note en bas de page pour ceux qui ont lu le texte. Ce n'était pas écrit dans le texte lui-même. Je me souviens avoir lu de la plume de votre évêque que, précisément, une note en bas de page n'avait pas un caractère magistériel. Et donc, comme ce n'était pas dit explicitement dans le texte, il concluait que rien n'avait été chargé dans la pastorale de l'Église concernant les divorcés remariés et les homosexuels. Je ne sais pas ce qui se vit dans votre diocèse, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ça pour dire que, même lorsqu'un texte est très explicite, et il y a eu des analyses qui ont été faites, notamment par la Conférence des évêques de France, il y a un gros bouquin qui est sorti, et qui est tout à fait explicite, il y a une demande d'évolution de la part du synode sur la pastorale concernant les homosexuels. On voit bien qu'il peut y avoir des évêques qui disent « moi, je n'ai pas compris ça ». Bon, comme je suis maître dans mon diocèse, je fais dans mon diocèse ce que je veux. Donc, entendez que la question a supposé qu'il y ait au terme de ce synode qui porte notre espérance, qu'il y ait des choses qui nous conviennent et qui soient validées par le pape François, etc., comme étant l'expression du sensus fidei, le bon sens de la foi des chrétiens, il n'est pas sûr du tout que ce soit mis en œuvre dans la totalité des diocèses à travers le monde. Comment les Africains vont recevoir des choses qui leur plairont pas? Comment vont voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une phase profonde d'incertitude. Donc, je persiste à considérer que le synode est donc le premier signe d'espérance qui nous est offert, parce qu'il engage toute l'Église, mais il exige, ayons ça en tête, il exige de chacun de nous, même modeste laïc engagé dans l'Église, il existe de chacun de nous une forte mobilisation personnelle pour expliquer et faire dépasser les peurs que peuvent avoir les uns et les autres. C'est pour ça que je me suis autant attardé là-dessus, parce qu'on rentre dans la période où vous allez tout entendre sur ce synode. On va avoir de nouveau des papiers dans le Figaro pour nous expliquer que ça part. Il faut que vous ayez ces quelques schémas en tête pour, dans les discussions avec vos amis, dans les discussions familiales, etc., être capable de redresser un peu la barre, non pas pour tout justifier, mais pour dire, mais non, la règle du jeu, ce que veut le pape François, c'est pas de détruire l'Église, hein, c'est de rendre au peuple de Dieu la parole et après d'avoir un discernement au niveau normal. La deuxième réponse, j'accélère, ce qui germe ici et là, hein, au milieu de notre désenchantement parfois, je crois qu'il faut être attentif à ce qui germe. Je ne sais plus quel est le cardinal français, je me demande si ce n'était pas le cardinal Marty, qui disait qu'on était plus sensible au mur qui s'effondre qu'à l'herbe qui pousse, ce qui germe. C'est vrai, et c'est d'autant plus difficile. Alors, il y a des choses qui s'innovent, et puis il y a des paroles fortes, hein. Le problème, c'est que tout ça ne peut nous parvenir que si c'est relayé par des médias. Et alors, il y a les médias chrétiens qui, en général, essaient de jouer à peu près leur rôle. Mais c'est vrai que les médias non chrétiens, aujourd'hui, ont pris des distances par rapport à l'Église. Ils ont acté l'exculturation du catholicisme français. J'ai été frappé, je pense que c'est l'exemple, j'ai été frappé au début du mois de juillet. Vous savez que le pape François a annoncé un consistoire, c'est-à-dire la nomination de 21 nouveaux cardinaux, dont d'ailleurs l'évêque d'Ajaccio et un autre évêque français, enfin un prélat français nonce apostolique. Et le commentaire intelligent qu'a fait le correspondant de la Croix à Rome a été de dire, avec ces 21 nouveaux cardinaux, le pape François a désormais une majorité au conclave qui va devoir élire son successeur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai entendu un évêque, alors pas le vôtre, mais j'ai entendu un évêque que je ne citerai pas par charité chrétienne me dire il y a 7-8 ans, 2 ans, 3 ans après l'élection du pape François, monsieur, vous savez, monsieur Poujol, le pape François, c'est un mauvais moment à passer. Voilà, l'honneur de dire, bon, il est complètement fou, mais après on va revenir à une saine conception de l'Église et de la religion. Et il y a un certain nombre de gens qui continuent à vivre sur cette idée-là. Aujourd'hui, on sait que statistiquement, le pape François, s'il meurt ou s'il démissionne, a une majorité, a priori, au sein du conclave, pour élire un pape qui soit de sa sensibilité. Ce qui ne veut pas dire, je reviens à mon propos précédent, ce qui ne veut pas dire que pour eux, ou pour le nouveau pape, même s'il est dans la suite du pape François, ce sera facile d'imposer ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du synode. Donc, je reviens à mon article du Monde, alors que, objectivement, il y avait là un événement essentiel, on a eu droit à 5 lignes dans le Monde. Je me souviens de l'époque des Fesquet et même de l'époque de mon ami Henri Tinck, où Le Monde faisait référence, comme Le Figaro d'ailleurs faisait référence, comme Paris Match au moment du Concile faisait référence sur ces questions-là. Maintenant, la presse non confessionnelle s'en fout royalement, n'a plus la culture et donc n'est plus capable de vous informer, vous, sauf si vous lisez les journaux catholiques, des événements qui marquent. Donc, je dis, il faut être attentif à ce qui germe, il faut être attentif à un certain nombre de paroles fortes, à condition encore qu'elles arrivent jusqu'à nous, hein, et dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas forcément porteur. Dans les signes d'espérance, moi je vois, autour de moi en tout cas, parmi les jeunes que je connais, la mobilisation des jeunes autour du thème de l'écologie. Il y a eu cet été un festival qui s'est appelé Festival des Poussières, qui a rassemblé 240 jeunes mobilisés sur la pensée du pape François, sur les thèmes de l'écologie et de la justice sociale. Attention d'ailleurs, je leur dis parfois prudence, on a parfois l'impression qu'ils ont tendance à vouloir se radicaliser sur ces questions-là. En fait, c'est quand même un signe d'espérance. C'était porté par un collectif Anastasis, que je connais moi un petit peu, hein, qui était le co-organisateur, qui ont associé, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais des cafés associatifs comme le Simone, du nom de Simone Veil, la philosophe, hein, pas la ministre, à Lyon, ou le Dorothy à Paris, Dorothy Day, qui a été un grand acteur du catholicisme social aux États-Unis, et qui sont des lieux qui sont créés par des jeunes, qui sont des lieux d'accueil, des jeunes qui ont le souci de vivre leur foi, de prier ensemble. Je déjeunais encore avant-hier avec un de ces jeunes qui a 27 ans, qui est journaliste, qui fait un boulot absolument remarquable. Il me disait au Dorothy, une fois par semaine, on prend le temps de prier ensemble. Ils ont 27 ans, ils ont 30 ans, etc. etc. Hein? D'accueillir les gens, d'accueillir tous les paumés. Il y a des signes d'espérance. Alors, il y en a deux, il y en a trois, il y en a d'autres. Il y en a ailleurs. Je pense aux communautés Lazare, où des jeunes travailleurs catholiques vivent en colocation avec des gens de la rue pour essayer de les réinsérer, etc. Donc je veux dire, il faut qu'on soit attentif à tout ça. Il y a plein de signes d'espérance, hein, à ce niveau-là. La deuxième chose que je voulais, les maisons d'évangile, on pourrait parler d'autre chose. L'autre chose que je voudrais signaler, ce sont les paroles fortes qui nous ont été données d'entendre. J'ai bouffé mon temps, mais il faut que je continue, que j'aille jusqu'au bout. Notamment pendant la période de confinement. Deux noms me reviennent en mémoire, hein, dont je voudrais vous parler. Le frère François Kasingena Trevedi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est un moine bénédictin de l'abbaye de l'île du Gé, qui désormais vit en ermite dans le Cantal. Il va traire les vaches, il s'occupe de son jardin. Il écrit des choses, je vous conseille de lire ses livres qui sont sortis en librairie. Je vous dis en propos, mais d'autres ont écrit la même chose, mais c'est arrivé, je crois, au bon moment. Le modèle territorial de la pastorale agonise. Il est grand temps de battre en retraite pour oser affirmer d'autres modes. Non de conquête, mais de présence. Non de présence, mode prophétique, à proportion de leur modestie. Il nous faut revenir aujourd'hui, de manière réflexive, sur notre histoire et discerner ce qui est étranger à l'Évangile, inutile à l'Évangile, ce qui n'est plus discible, ni crédible, ni tenable. Je pense à un autre auteur qui est Thomas Salik. Thomas Salik est professeur de philosophie et de sociologie à Prague. Hein. C'est lui qui a fait le discours inaugural au moment de la phase continentale du synode. À propos du pape François, il écrit cette réflexion qui me paraît tout à fait remarquable. Le pape François ne change pas les dogmes et ne démolit pas les structures externes. En revanche, il transforme la praxis et la vie. Il ne change pas l'Église de l'extérieur. Il la transforme bien plus profondément, spirituellement, de l'intérieur. Il la transforme par l'esprit de l'Évangile. Il est un révolutionnaire de la miséricorde. Et face au risque de division, je ne veux pas aller dans les citations, face au risque de division dans l'Église, il dit, mais il faut peut-être revenir à ce qu'a connu l'Église primitive. C'est-à-dire qu'il y a des sensibilités différentes. Que certains s'adressent aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme et que les autres s'adressent plutôt aux Grecs, hein, qui venaient au christianisme. Ils ne parlaient pas exactement le même langage. Le discours, si on a quatre évangiles dans l'Église, c'est parce que les quatre évangiles ne disent pas exactement la même chose. On sait bien que les auteurs des évangiles ne s'adressaient pas exactement au même public. Donc ils ont l'humilité de rentrer dans cette complexité. Hein, voilà. Une troisième réponse dans cette quête d'un cheminement d'espérance, après le synode et après, je dirais, le repérage à la fois des lieux où il se vit des choses novatrices et puis des paroles qui nous incitent à aller de l'avant, hein, c'est, je dirais, dans l'Église, je dirais, ce que j'appellerais la liberté des enfants de Dieu. Et ça nous concerne tous. Au fond, j'aurais pu consacrer l'essentiel de mon propos à ce seul aspect. Reprendre la liberté des enfants de Dieu. Je dirais, excusez-moi mes pères, notamment par rapport aux clercs, lorsqu'ils nous emmerdent, parce qu'il y en a certains qui nous emmerdent dans certaines paroisses. Hein. J'ai appris que d'ailleurs dans cette paroisse, il y avait des fidèles qui venaient, et qui venaient un peu par désespérance de la paroisse où ils étaient précédemment, ils avaient besoin d'un bol d'oxygène, et ils sont venus ici. Mais ça se passe de plus en plus. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Si votre curé vous emmerde, allez voir le curé d'à côté. Je crois qu'il faut avoir cette liberté aujourd'hui. Hein? Si vous tient des propos qui franchement vous disent « Mais attendez, ça c'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile tel que je le comprends. C'est pas l'Évangile tel que je le vis. C'est pas l'Évangile. Il faut passer à autre chose. Il faut aller voir ailleurs. C'est la condition de la survie. Hein. » On parle souvent de la nécessité pour les fidèles d'être en communion avec leur évêque. Et c'est vrai que c'est essentiel. Mais est-ce qu'on se pose la question, ou est-ce qu'on pose la question aux évêques de savoir s'ils acceptent d'être en communion avec leur peuple ? c'est le revers de la médaille, ça aussi. Hein, il ne suffit pas de vouloir être en communion avec son évêque. Moi, je veux bien être en communion avec mon évêque si mon évêque me donne des signes comme quoi il veut bien être en communion avec moi. Hein, et c'est ce qui se passe dans mon diocèse de Créteil. Je me suis un peu frité avec lui, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'écoutait. Hein, bon, voilà. Donc, ça a renoué un peu une relation de confiance. Soyez libres. Soyez libres de changer de paroisse. Soyez libres de vous regrouper de manière autonome, par exemple pour partager chez l'un, chez l'autre, la parole de Dieu, vivre la fraternité autour de vous. Et je suis sûr, on nous dit il n'y a plus de prêtres, etc. Je suis sûr que le jour où il y aura des communautés vivantes comme ça, il y aura des prêtres qui auront envie, en tout cas il y aura des jeunes qui auront envie précisément de renouer peut-être avec le sacerdoce, avec le presbytérat, parce qu'ils auront envie de se mettre au service de ces communautés qui vivent quelque chose de positif de l'Évangile. Hein ? Que voulez-vous que des prêtres soient motivés aujourd'hui d'aller célébrer dans des paroisses avec un public vieillissant, où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de dynamisme et que ce sont des gens qui sont parfaitement respectables. Mais je comprends qu'il n'y a pas de quoi motiver un prêtre de 30 ans. Mais si dans des structures à créer, mais il faut avoir l'audace de le faire. Si dans des structures à créer, on vit la réalité de l'Évangile, je suis sûr qu'il y a des jeunes généreux qui auront envie de se mettre au service de ces communautés pour les aider, pour les épauler et pour discerner avec elles ce qui est faisable ou pas faisable. La tentation est forte pour certains de quitter l'Église, dans laquelle parfois ils ne se retrouvent plus. J'ai dit tout à l'heure à table que l'effondrement qui avait été pour moi d'avoir des amis qui sont devenus protestants, un va devenir pasteur luthérien, d'avoir des amis que j'ai connus avec récitant le bénédicité au début du repas et grâce à la fin du repas, qui m'écrivent « On est devenu athée, on n'a jamais été aussi heureux depuis qu'on est devenu athée. » Bon, je ne veux pas rentrer, dans ces débats-là. Hein. En 2012, donc il y a 10 ans, le théologien Hans Kung, qui est un théologien suisse, dont je rappelle quand même qu'il a reçu des sacrés coups de marteau sur la tête de la part du Vatican, puisqu'en 1979, ça devait être Ratzinger, je pense à l'époque, il y a eu un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi disant qu'il n'avait plus le droit de se présenter comme étant un théologien catholique. Il n'avait plus le droit. Bon, il a continué à être théologien, il a continué à publier. En 2012, Hans Kung publie un ouvrage qui s'appelait « Peut-on encore sauver l'Église ?» qui est paru au Seuil. Je vous conseille de lire ce livre, il n'a pas pris une ride. Alors il disait « Peut-on continuer à rester dans l'Église ?» Il disait ben, « Vous pouvez quitter l'Église, vous pouvez devenir protestant, vous pouvez arrêter de payer le denier du culte, etc. etc. » Mais il disait « C'est pas le choix que j'ai fait. Le choix que j'ai fait, moi, c'est de rester dans l'Église. » disait-il, malgré tout ce qu'il avait reçu. Et il précisait « À l'usage de chaque croyant, donc de chacun d'entre nous ici, ce qu'il appelait les 5 prescriptions de ce qu'il appelait sa thérapie. Voilà la thérapie pour faire face à la crise de l'Église. Premier point, ne pas se taire. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Ne pas se taire. Car chaque baptisé est légitime à participer à la réflexion. C'est ce qu'a fait le pape François. Deuxième point, agir soi-même, car il n'est pas de petite amélioration à portée de main qui ne soit porteuse de changements plus profonds et plus radicaux. Troisième point, agir de concert avec les autres pour échapper au risque de l'impuissance ou du sectarisme. Je me fais ma petite église à moi et je suis tellement sûr d'avoir raison que je veux discuter avec personne. Non, agir avec l'autre. Quatrième point, quatrième recette, rechercher des solutions provisoires comme moyen de dépasser plus vite les blocages que l'on réprouve sans attendre le grand soir. Cinquième point, enfin, ne pas abandonner ce qui serait la plus forte tentation. Et il concluait, c'est justement lors d'une phase de restauration et de stagnation dans l'Église qu'il importe de poursuivre avec sérénité, dans une foi confiante et de ne pas s'essouffler. Bon. Imaginez mon trouble alors que je viens de dépasser de 10 minutes le temps qui m'était imparti et que je n'ai pas encore abordé la deuxième partie que j'avais prévue quand même beaucoup plus ramassée. Et la deuxième partie, c'était comment nous situer dans la société. Je vais aller vite, mais il y a aussi des choses essentielles à dire. Et on prolongera un petit peu si vous en êtes d'accord. On connaît le vieux précepte dont notre éducation catholique a été saturée. Bon, il faut être à la fois le sel de la terre et la lumière du monde, bien sûr. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être dans le monde sans être du monde. On nous a saoulés avec ça, Il faut être dans le monde, mais sans être du monde. Bon. Faire l'exégèse, c'est pas facile. Et moi, je suis tombé un jour sur cette pensée, que j'ai trouvé assez tonique, cette pensée de Charles Péguy. Et Charles Péguy dit ceci. « Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. » Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je dis qu'au moins, ça nous oblige à réfléchir un petit peu. La crise profonde que traverse l'Église catholique, et depuis longtemps, a eu un double effet. Je l'ai dit tout à l'heure, d'exculturation du catholicisme, qui aujourd'hui ne fait plus lien dans la société. Ce n'est pas les valeurs catholiques, ou alors sécularisées, qui font le lien dans la société. Et la décrédibilisation de l'institution, notamment avec tout ce qu'on a vécu. Lorsque le pape, souvenez-vous, c'était le pape Paul VI, qui avait parlé de l'Église experte en humanité, je ne connais pas beaucoup de clercs aujourd'hui qui osent ressortir la formule experte en humanité. Ça fait un peu mal aux entournures, hein, l'experte en humanité. Hein. Et pourtant, Thomas Salic, auquel je faisais référence tout à l'heure, je faisais toute référence à l'heure, souligne cette caractéristique du monde contemporain. J'ai vu ça dans un de ses articles. Il dit, à l'heure actuelle, les croyants et les athées sont selon lui, il est sociologue, des groupes en diminution. Et ceux qui voient être le groupe majoritaire, qui lui semble être le groupe principal, c'est ce qu'il appelle des chercheurs. Par rapport à la foi, on pourrait dire des agnostiques. Mais il semble dire que pour peu qu'on soit créatif et imaginatif, nos contemporains, contrairement à ce qu'on pourrait penser, restent disponibles pour une parole. Mais si c'est une parole christique, si c'est une parole qui les rejoint dans leur vie de tous les jours, parce que ça parle le langage de leur vie, parce que ça parle de leurs préoccupations, parce que ça parle de leur joie, de leur peine. Hein. Donc soyons attentifs à ça. Hein. Je pense que le monde autour de nous, et peut-être les jeunes générations aussi, sont disponibles, mais à condition qu'on ne jargonne pas, à condition qu'on se risque dans une parole personnelle. Il nous faut risquer, chacun d'entre nous, des paroles qui disent notre foi personnelle avec notre langage à nous. Et je sais que c'est parfois difficile, parce qu'on dit on n'a pas la culture, on n'a pas les mots. Hein. Moi, je sais que mes enfants, qui sont plus pratiquants, m'ont dit « Papa, tu peux faire une éducation religieuse de nos filles, parce que nous, on ne sait pas dire les choses. On ne sait pas. Mais toi, tu sais. Et nous, on n'est pas opposé à ce que tu fasses un éveil religieux. Hein. » Le pape François, souvenez-vous, non, mais je ne vais pas passer là-dessus, parce que j'ai pas de temps. Donc, je crois que il nous faut partager avec nos compatriotes, avec nos concitoyens, tous les défis qui sont les défis de l'heure. Oui, ce que je voulais dire, c'est le pape François qui nous dit « Je vois l'Église comme un hôpital de campagne ». Et moi, ça m'a mené en résonance quand j'ai écrit, il y a maintenant 15 ans, la charte éditoriale de Pèlerin, où on disait « Nos lecteurs et les Français n'attendent pas de nous qu'on leur fasse la morale, mais qu'on vive fraternellement avec eux ». Et ils attendent de nous des paroles. Je crois qu'on attend des chrétiens des paroles autour du réchauffement climatique, mais qui se souvient qu'il y a cette encyclique du pape François ? Pas les médias. Qu'on attende de nous des paroles par rapport au couple homosexuel, qu'on attende de nous des paroles par rapport à ces enfants qui naissent. Pas pour condamner, mais pour accompagner. Qu'on attende de nous des paroles maintenant qu'on rentre dans le débat sur la fin de vie. Je crois que la société, contrairement à ce qu'on peut penser, est beaucoup plus en attente que ce qu'on peut, imaginer. Hein et je crois qu'il y a effectivement besoin dans la société de redécouvrir la sagesse des grandes traditions religieuses. J'aime à rappeler cette parole que j'ai trouvée un jour dans des écrits du cinéaste Pasolini. Écoutez bien cette parole de Pasolini. Pasolini était communiste, hein. Pasolini était homosexuel, Pasolini était tout ce qu'on veut. Il nous a laissé quelques-uns des films, selon moi, les plus merveilleux de l'histoire du cinéma italien, mais c'est une autre affaire. Pasolini écrit ceci dans ses écrits corsaires. « Si les fautes de l'Église ont été nombreuses et graves dans sa longue histoire de pouvoir, la plus grave de toutes, les fautes de l'Église, hein, la plus grave de toutes, serait d'accepter passivement d'être liquidée par un pouvoir qui se moque de l'Évangile. Dans une perspective radicale, ce que l'Église devrait faire est donc bien clair. Elle devrait passer à l'opposition, en reprenant une lutte qui d'ailleurs est dans sa tradition, la lutte de la papauté contre l'Empire. Mais pas pour la conquête du pouvoir. L'Église pourrait être le guide, grandiose, mais non autoritaire, de tous ceux qui refusent. Et il dit, c'est un marxiste qui parle, et justement en qualité de marxiste. Ceux qui refusent le nouveau pouvoir de la consommation, qui est complètement irréligieux, totalitaire, violent, faussement tolérant, et même plus répressif que jamais, corrupteur, dégradant. Jamais plus qu'aujourd'hui n'a eu de sens l'affirmation de Marx selon laquelle le capital transforme la dignité humaine en marchandise d'échange. C'est donc ce refus que l'Église pourrait symboliser. Fin de citation de Pasolini. Dans un commentaire à la longue interview, souvenez-vous, que le pape François avait donnée en 2013, qui a été repris par toutes les revues jésuites, le théologien protestant Daniel Margrat écrit ceci, un théologien protestant. « L'Église gagne en fidélité évangélique, à ne pas s'opposer en donneuse de leçons, mais à être la conscience inquiète de nos sociétés. » Être la conscience inquiète de nos sociétés. Et je pose la question, mais les dites sociétés, est-ce qu'elles ont envie que l'Église soit la conscience inquiète des dites sociétés? On se heurte à ça. Comment être la conscience inquiète de nos sociétés lorsque les médias nous ignorent, hein? Voilà, combien de laïcs catholiques, et j'en suis, engagé dans un dialogue exigeant précisément avec la société, pour dialoguer avec elle, plutôt que de l'ostraciser, se sont heurtés un jour à des réactions négatives de gens qui disent « De toute façon, on ne t'écoute plus parce que ce que tu nous dis, c'est ce que dit l'Église. » J'ai dit « Mais attendez, moi je ne le dis pas parce que c'est l'Église qui le dit, je le dis parce que c'est ma conviction profonde. Et j'argumente avec des arguments qui ne sont pas des arguments de type religieux et spirituel, mais qui sont des arguments que tout citoyen peut partager. » Donc voilà, être la conscience, je crois que c'est un signe d'espérance aussi, être la conscience inquiète de nos sociétés. Voilà, je suis désolé, je suis conscient d'avoir abusé de votre temps et de votre bienveillance, d'avoir sollicité votre attention peut-être au-delà du raisonnable, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous parce que c'est ça qui me fait vivre moi aussi. Et je dirais en conclusion, oui, il nous faut plus que jamais penser l'avenir, il nous faut plus que jamais oser l'espérance. Comme catholique en liberté face à l'Église, catholique en liberté face à la société. Car le titre de mon livre, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, quand je dis catholique en liberté, c'est pas uniquement pour dire Poujol est catholique en liberté. C'est pas ça du tout. C'est pas ça le fond du problème. C'est inviter chacun de vous à être catholique en liberté. Inviter chacun de ceux qui lisent ce livre ou qui ne le liront pas, peu importe, d'être un catholique en liberté. Je crois que le seul signe d'espérance qui est vraiment porteur pour l'avenir, c'est ça. Que chacun d'entre nous devenions dans l'Église et dans la société des catholiques en liberté. Merci de votre patience.
Catholique en liberté, dans l'Église, dans la société, vous venez de suivre de larges extraits de l'intervention de René Poujol, ancien rédacteur en chef du magazine Pèlerin. Intervention enregistrée le 15 septembre 2023 dans le cadre du cycle proposé par le service diocésain Foi et Culture avec les paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul et Sainte-Marie du Hameau à Pau, dessiner un avenir, dire une espérance. Vous pouvez voir ou revoir la conférence de René Poujol dans son intégralité et en vidéo sur le site de Foi et Culture en vous rendant dans la rubrique Archives 2023-2024, le site internet foi-et-culture64.fr.